Il est 19h sur Europe 1.
C'est le classique ce soir. OM-PSG, l'un des matchs les plus importants du championnat de Ligue 1. Il y a moins de 2 heures du coup d'envoi. L'ambiance est déjà électrique à Marseille. Nous serons sur place.
Nouveau coup dur pour le porte-monnaie des Français après une hausse des prix de l'énergie. C'est le prix de la baguette, l'un de nos aliments phares qui pourrait augmenter dans les prochaines semaines.
Il y avait énormément de monde cet après-midi à Mulhouse pour soutenir la famille de Dina. L'adolescente de 14 ans s'est suicidée après avoir été longuement harcelée par des élèves de son collège.
Un bijou de technologie mis en orbite la nuit dernière, une fusée Ariane 5 a décollé avec un satellite de télécommunication militaire qui permettra à l'armée française de rester connectée en permanence, même en cas d'agression. Les détails dans un instant. La tendance météo, Valérie Darmon.
Du soleil des Pyrénées au Jura, le reste du pays traversé par une petite perturbation d'ouest en est. Le ciel est donc nuageux et pluvieux à la mi-journée entre Nord-Aquitaine et Ardennes.
Météo complète en fin de journal. Mais avant de développer tous ces titres, on va revenir sur cette journée marquée d'une pierre blanche dans les annales des Grands Prix de moto. C'est un Français qui devient champion du monde.
Il s'appelle Fabio Quartararo. Il a seulement 22 ans, parti en 15e position du Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie. Fabio Quartararo a fini 4e et est titré avant même la fin de saison. Jamais un Français n'avait réussi un tel exploit, Axel May.
Oui, et pour accompagner cet exploit, je vous propose non pas d'écouter la Marseillaise, mais ceci. Fabio Quartararo, qui s'arrête devant les stands, fait vrombir le moteur de sa Yamaha et chauffer le pneu arrière. C'est sa façon de célébrer ce premier titre mondial dans la catégorie reine de la moto. Rendez-vous compte, jamais depuis la création du championnat en 1949, un Français n'avait inscrit son nom au palmarès. El Diablo, comme est surnommé le jeune niçois, répond à nos confrères de Canal+.
J'ai pas les mots, sincèrement, j'arrive pas à réaliser encore ce qu'on a fait aujourd'hui. En partant d'aussi loin, on n'a pas réussi à vraiment faire une belle course comme je le voulais, mais bon, je m'en fous, je suis champion du monde aujourd'hui, je peux tout me permettre. Donc voilà, c'est un travail que vraiment on a fait avec le team. Ce que je sais, c'est que je suis champion du monde et il y a ma famille ici, donc sincèrement, je ne peux pas être plus content.
Et comme un symbole, El Diablo est titré le jour où la star des circuits, Valentino Rossi, disputait à 42 ans son dernier Grand Prix à domicile. Ce même Valentino Rossi qui, lorsque Fabio Quartararo était encore un adolescent, avait déclaré « Un jour, il sera champion du monde ».
Axel May du service des sports d'Europe 1.
L'autre événement du jour, Sophie, plus particulièrement de la soirée, c'est le choc entre l'OM et le PSG.
Match comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre au Vélodrome sans aucun supporter parisien interdit de déplacement. On est à moins de 2 heures du coup d'envoi et très chaud d'ambiance à Marseille, Stéphane Burgat.
Oui, les premières bombes agricoles ont commencé à exploser plus de 5 heures avant le coup d'envoi imaginé. Et la température qui ne cesse de monter depuis, elle monte crescendo. Les supporters qui s'en donnent vraiment à cœur joie, à grand renfort de chants, de fumigènes, de feux d'artifice qui sont même tirés régulièrement pour une ambiance digne d'un 14 juillet.
Et encore mieux. C'est le bordel, comme vous le voyez, c'est incroyable. J'ai pas les mots, incroyable. C'est impressionnant, mais on en veut encore plus.
On est là 1 heure, 2 heures, 3 heures avant, on profite, on fait des apéros avec les copains et voilà.
Ça va être une belle ambiance, une belle soirée, j'espère. En espérant la victoire.
Et c'est une véritable marée humaine ici. Il y a du monde jusque sur la route, sans incident pour l'heure, heureusement. C'est l'ambiance des grands soirs. On se dirige peut-être même vers un record d'affluence pour cette rencontre qui va se jouer à guichet fermé. La barre des 60 000 spectateurs sera franchie. Les Marseillais sont bouillants et ça nous promet un spectacle assourdissant au coup d'envoi à l'intérieur du Vélodrome.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1.
Ce classique, c'est toujours une rencontre très particulière dans le championnat de France.
Oui, ce soir, c'est le PSG qui part favori, Jean-François Pérez.
Ah oui, largement même, puisque le PSG possède au moment du coup d'envoi 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas ça l'important, parce que les 60 et quelques mille supporters qui vont investir, d'ailleurs pour la plupart sont déjà là. C'est incroyable de voir qu'à 2 heures du coup d'envoi, le stade est déjà à moitié plein. Eh bien, ces supporters, ils attendent une belle prestation d'un OM qui est très généreux depuis le début de la saison, une équipe très offensive, très plaisante et qui va peut-être réussir à briser une malédiction. Ça fait 10 ans que Marseille n'a pas battu ici au Stade Vélodrome ce fabuleux Paris Saint-Germain de Messi, de Neymar, de Mbappé et de toutes ces stars. Normalement, elles seront toutes là présentes ce soir au coup d'envoi et on attend évidemment un très grand match de foot en espérant que l'ambiance sera sympa mais ne débordera pas parce qu'évidemment il y a toujours beaucoup d'agressivité autour des OMPSG. On espère que ce soir, après les messages qui ont été passés par la direction du club et même par Dimitri Payet, le principal joueur de l'OM, on espère que tout cela se passera dans une atmosphère correcte. Le coup d'envoi donc à 20h45.
Merci Jean-François Pérez à Marseille. Jean-François qui nous fera vivre cet OM-PSG dès 20h lors d'une émission spéciale sur Europe 1 dans Europe 1 Sport.
19h05, la suite du journal avec Sophie Tussaud et dans l'actualité également ses craintes autour du pouvoir d'achat des Français.
Avec les prix qui augmentent un peu partout, les Français sont durement frappés au portefeuille. Hausse du prix du gaz, de l'électricité, des carburants, des céréales également. Des augmentations qui se répercutent sur les produits de première nécessité comme le pain en raison notamment de la hausse de 30% du cours du blé. C'est ce que nous explique Dominique Enracte, le président de la Confédération nationale de la boulangerie.
Cette année, il y a quand même une augmentation effectivement du blé qui a flambé, donc il y aura une répercussion sur la farine. Alors non seulement donc la matière première, mais aussi l'énergie qui a flambé. On n'a jamais vu une augmentation comme ça. Vous savez, tout ce qui rentre dans une boulangerie est cuit, donc le poste énergie est très important. Ensuite, vous avez aussi le papier, par exemple, tout ce qui est les emballages, où il y a même actuellement des ruptures, bon, ça aussi a flambé, et aussi les salaires qui ont augmenté. Donc c'est vrai qu'on risque d'avoir une augmentation. Bon, ce qu'il faut aussi, je crois, relativiser au niveau du prix du pain, vous savez qu'en 20 ans, en fait, la baguette, enfin en moyenne, je ne parle pas de la tradition, a pris 23 centimes. Et ça reste quand même des augmentations qui sont assez ponctuelles et qui n'ont en tout cas pas suivi le coût de la vie.
Dominique Enracte, le président de la Confédération nationale de la boulangerie, avec Yasmina Katou pour Europe 1.
Beaucoup d'émotions aujourd'hui à Mulhouse, près de 3 semaines après la mort de Dina. Une marche blanche a eu lieu aujourd'hui.
Des milliers de personnes se sont rassemblées en mémoire de la jeune fille Dina qui avait 14 ans, s'est suicidée dans sa chambre. Selon sa famille, c'est le harcèlement qu'elle subissait à l'école depuis 2 ans et les insultes racistes et homophobes dont elle était la cible par un groupe de filles qui l'ont poussée à ce geste de désespoir. Sa maman, Samira, a annoncé son intention de porter plainte contre le collège et contre X. Elle s'est exprimée cet après-midi devant la foule venue la soutenir.
Ce que j'aimerais dire ici, maintenant, c'est qu'il faut que le harcèlement cesse. Ma fille a été harcelée pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, on a fait des pieds et des mains pour que ça s'arrête. Mais elles l'ont poursuivi jusqu'à la maison, jusqu'aux réseaux sociaux. Le corps enseignant n'a rien fait pour ma fille. Ils m'ont dit que c'était des banalités entre copines. Mais quand on voit, ne t'inquiète pas, tu vas bientôt mourir, on va t'envoyer des liens sur Internet pour que tu puisses crever, que tu ne te rates pas, c'est très 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 grave. Ma fille était une personne intelligente, elle aimait la vie. Elle voulait être présidente de la République, elle voulait faire du droit, elle voulait faire tellement de choses. Et maintenant, elle n'est plus là. Je la cherche encore. Le matin, je me lève pour la réveiller, pour aller au lycée, jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle ne sera plus jamais là.
La maman de Dina lors de la marche blanche à Mulhouse.
Dans l'actualité également, ce nouveau pas dans cette guerre des étoiles. Souvenez-vous qui avait été promise par Emmanuel Macron. Ariane 5 a mis la nuit dernière en orbite 2 satellites de communication.
La fusée a décollé depuis Kourou en Guyane. Ce lancement était le 111e d'Ariane 5 également. Sa 2e mission depuis le début de l'année. Et parmi les 2 satellites, un militaire qui doit pouvoir permettre à la France de résister à toute forme d'agression et assurer à l'armée de maintenir ses capacités de télécommunication à haut débit en toutes circonstances, Nicolas Toneff.
Oui, exactement. Hein, c'est la raison d'être de ce système Syracuse 4 qui comptera à terme 3 satellites. Répondre à ce besoin crucial des armées, pouvoir communiquer avec les forces déployées où qu'elles soient dans le monde, y compris avec les alliés de l'OTAN, se transmettre des informations rapidement à haut débit sans qu'elles ne soient interceptées ou brouillées ou déformées même par l'adversaire. Cette capacité de résistance aux assauts cyber adverses est devenue une nécessité absolue pour les militaires dans ce contexte de numérisation continue des champs de bataille, parce qu'aujourd'hui, des pays comme la Russie savent brouiller les signaux GPS ou les modifier. À 2 reprises également, déjà, des satellites français et franco-italiens ont été approchés physiquement dans l'espace par un autre engin. Le dernier, c'était en 2017. Tentative d'espionnage par écoute de la Russie, selon le ministère de la Défense français. Alors Syracuse 4 est conçu justement pour faire face également à ce genre d'agression. Il peut surveiller ce qui se passe autour de lui et se déplacer, même pour éviter une approche inamicale.
Merci Nicolas Toneff pour ces explications.
On vous en parlait hier sur Europe 1. Les vacances de la Toussaint remportent cette année un franc succès. 14 millions de Français sont partis.
Et les réservations de dernière minute battent leur plein. Dans le Morbihan, par exemple, on attend 30% de fréquentation en plus par rapport à la Toussaint de 2019, dernière année de référence avant le Covid. Et c'est une tendance de plus en plus répandue. Les vacances ne s'organisent plus longtemps à l'avance et ça peut virer au casse-tête pour les professionnels du tourisme. Un reportage de Charles Guyard.
Il y arrive aussi qu'on a des personnes qui débarquent dans la cour pour nous demander si on n'a pas une chambre de disponible.
Avec des dates et des destinations de vacances qui se décident de plus en plus sur un coup de tête, Elisabeth Stella Rousseau, la gérante du domaine de Kerizel, a dû s'adapter.
Ça nécessite pour nous une organisation. Il faut toujours que les chambres soient prêtes pour être louées à la dernière minute. Surtout si la météo est au rendez-vous, là, c'est assez intense quand c'est comme ça.
Surtout que des communes du littoral ont parfois installé des webcams qui diffusent en direct des images de la plage, comme à Damgan, et voir un beau soleil sur l'océan, eh bien...
Ça peut déclencher aussi des départs très rapides.
Laurie Le Trionnaire, directrice de l'Office du Tourisme.
Il fait beau, on revient, voilà.
Et quand le beau temps est donc au rendez-vous, les centrales de réservation frétillent.
Les clients, ils ont vu qu'il faisait beau à la météo, paf, ils veulent venir dans le Morbihan. Il y a des pics au niveau des appels.
Résultat ici, Yves Géhanneau, le directeur des Gîtes de France du Morbihan, a dû accompagner les loueurs peu habitués à une clientèle plus volatile.
Historiquement, Gîtes de France, c'est des locations à la semaine, réservées longtemps à l'avance. On a expliqué à nos propriétaires en disant, ben voilà, les tendances, c'est ça. Soyez prêts.
Et dans le département, on s'attend pendant ces vacances à plus de 20% de réservations de dernière minute.
Même au dernier moment, on sera toujours là pour vous accueillir.
Dame Gant, Charles Guyard, Europe 1.
Le sport, on vous en parlait au début du journal. Le match OM-PSG qui a lieu ce soir. Et Lionel Rousseau se serait damné s'il ne pouvait pas en parler ce soir.
Ah, exactement, mais même au bord du gouffre, mais je serais venu ce soir pour animer cette émission.
Même
et
avec
voir
42 fièvres.
Et assister à cette rencontre extraordinaire avec nos experts, nos invités. Autour de Marc Libra, le Marseillais, ancien joueur de l'OM. Jimmy Algerino, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Mais nous aurons également des invités de prestige. Harry Habitant, grand supporter du PSG. Laurent Barra, grand supporter de l'Olympique de Marseille, tout cela autour des débats pour savoir qui va gagner, comment on joue, mais surtout on se posera une question avec une opposition de style entre les deux entraîneurs, deux Argentins, Pochettino et Sampaoli. C'est un petit peu l'eau et le feu, et ce sont ces deux hommes qui vont peut-être faire gagner leur équipe. Ce sera donc un très grand match à suivre à partir de 20h45. L'émission démarre à 20h. On n'oubliera pas de parler de Fabio Quartararo, premier champion du monde français dans la catégorie reine de MotoGP. On sera avec Philippe Monneret, notre expert, pour décrypter tout cela. Voilà.
Merci Lionel, on suivra ça avec vous évidemment.
Oui, à partir de 20h dans Europe 1 Sport. Du côté des résultats de cette 11e journée de Ligue 1, incroyable renversement de tendance pour Nice qui s'est finalement imposé 3 buts à 2 face à Lyon. Les Niçois qui prennent provisoirement la 3e place. Lens se classe 2e derrière Paris après avoir écrasé Metz 4 buts à 1. Match nul entre Lorient et Bordeaux, 1 partout. Victoire de 3 sur Reims, 2 buts à 1. Et de Rennes sur Strasbourg, 1 but à 0. Et puis du football également, mais on est Espagne. Et c'est le Real Madrid qui remporte le Classico après avoir battu tout à l'heure Barcelone 2-1.
Ça aussi, c'est toujours du très très beau spectacle. Merci ma chère Sophie Tussaud. On passe à la météo. Le temps demain, toujours beau, hein, Valérie Darmon.
Plus ou moins, on a une petite perturbation, toute petite, hein, arrivée ce matin sur la Bretagne qui traverse le pays en perdant progressivement de son activité. On retrouve donc le front faiblement pluvieux à la mi-journée de l'Aquitaine à la Champagne et à la Lorraine. De midi Pyrénées vers l'Alsace et autour de la Grande Bleue, avant l'arrivée de la perturbation, vous continuez de profiter du soleil. Les minimales sont comprises entre 1 et 8 degrés d'est en ouest, avec de petites gelées toujours sur les régions du nord-est, entre Champagne, Lorraine et Alsace, mais plutôt entre 10 et 13 près de la Méditerranée et de l'Atlantique. Donc vous voyez que ces valeurs sont contrastées. Elles sont contrastées aussi entre matin et après-midi, avec des maximales entre 12 et 16 degrés sur le nord-est, 22 à 24 près de la Méditerranée, 16 à 22 partout ailleurs.
Merci Valérie Darmon.